Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour amis auditeurs, nous nous retrouvons pour l'étude de ce trimestre et aujourd'hui nous allons aborder la troisième leçon qui a pour titre « Les dons spirituels et la prophétie ». Un premier verset à mémoriser qui nous est proposé dans 1 Corinthiens chapitre 12. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Quelques questions clés. Dans quel but Dieu accorde-t-il des dons spirituels? Comment ces derniers se manifestent-ils? Que penser du don des langues? Qu'enseigne la Bible sur les contrefaçons des dons? Les adventistes du septième jour croient en l'existence de dons spirituels. Mais nous ne sommes pas les seuls. De nombreuses églises disent avoir observé dans leur communauté des manifestations de ces dons, à faire des prévisions et à prophétiser. En tant qu'adventistes du septième jour, nous croyons aux dons de l'esprit, y compris à celui de prophétie. Mais nous pensons également que tout doit être vérifié à la lumière de la parole de Dieu. Cette semaine, en nous appuyant sur sa parole, nous examinerons de plus près certains de ses dons. Avec la journée du dimanche 11 janvier 2009, cette journée a pour titre « Les dons spirituels ». Un premier texte nous est proposé dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 11. « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. » Les dons spirituels, en grec « charismata », sont dits « spirituels » parce qu'ils viennent du Saint-Esprit qui les distribue à chacun selon la volonté de Dieu. En outre, le Saint-Esprit est accordé aux chrétiens afin qu'ils comprennent et apprécient ces dons. Paul donne quatre listes de dons spirituels. Nous allons lire chacune de ces listes. Et nous allons en trouver une première dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Voici ce qu'il dit. « Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. » Nous continuons, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons encore le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Et un autre texte que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. D'après le Nouveau Testament, Dieu accorde des dons spirituels pour que l'Église puisse achever la mission qu'il lui a confiée, à savoir nourrir spirituellement et édifier les membres et proclamer l'Évangile au monde. L'existence de ces dons devrait constamment nous rappeler que nous devons nous appuyer totalement sur Dieu si nous voulons accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. On voit dans les évangiles que les apôtres possédaient déjà des dons spirituels avant la Pentecôte. Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 1er, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. Dans Matthieu 10, verset 8, il leur a confié cette mission: guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ensuite, à la Pentecôte, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Cela semble indiquer qu'il est possible de recevoir plusieurs baptêmes dans le Saint-Esprit. Ainsi s'achève cette première journée. Continuons cette étude le lundi 12 janvier 2009, et là elle a pour titre « Les dons spirituels dans l'Église aujourd'hui ». Aujourd'hui, il existe parmi les chrétiens deux points de vue concernant la permanence des dons spirituels. Certains pensent que les dons qui édifient, comme la connaissance, la sagesse, l'enseignement, l'exhortation, la foi et la miséricorde, sont des dons permanents, mais que les dons correspondant à des signes, comme la prophétie, la guérison, les langues et les miracles, ont cessé d'exister à la mort des apôtres. Les défenseurs de ce point de vue déclarent « Les dons équivalents à des signes avaient un seul but, donner une crédibilité aux apôtres, c'est-à-dire faire savoir aux gens que ces hommes exprimaient des vérités divines. Une fois que la rédaction définitive de la parole de Dieu a été achevée, ces dons n'avaient plus lieu d'être et ils ont disparu. » C'est un commentaire d'un certain John MacArthur. D'autres chrétiens estiment que tous les dons spirituels seront présents dans l'Église jusqu'à la venue du Seigneur. Voyons maintenant ce que disent les textes suivants à propos de la permanence des dons spirituels. Nous avons maintenant dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, nous lirons les versets 5 à 7. De ce que vous avez été enrichis en lui, en toute chose, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans l'Épître aux Corinthiens, mais le chapitre 13, les versets 9 et 10. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Un autre texte dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. D'après Paul, les dons spirituels, ou charismata, existeront dans l'Église jusqu'au retour de Jésus. Mais est-ce que cela implique qu'ils seront tous présents en même temps? Un père de l'Église, Irénée, 120 à 195 après Jésus-Christ, a parlé de la présence et des manifestations des dons spirituels à son époque. Si l'on en croit ses écrits, il est clair qu'à la fin du deuxième siècle, les dons spirituels se manifestaient toujours. Mais au cours des deux siècles qui ont suivi, l'Église a connu une grande décadence spirituelle et théologique, et on peut dire d'une façon générale que les dons spirituels ont disparu. À l'époque de la Réforme, commencée avec John Wycliffe en Angleterre, Dieu s'est servi des réformateurs pour rétablir sa vérité négligée, et ils ont certainement eu des dons de connaissance, de sagesse et d'enseignement. Pourtant, aucun d'entre eux n'a prétendu posséder le don de prophétie. Ce don particulier, d'après le livre de l'Apocalypse chapitre 12 et au verset 17, ce don particulier devait se manifester de nouveau à la fin des temps dans l'Église du reste. Cette étude avec la journée suivante, qui est le mardi 13 janvier 2009. Et là, nous allons maintenant parler de la contrefaçon des dons. Et nous allons voir ce que la Bible enseigne à propos des faux dons et de leur origine. Et là, nous avons encore quelques textes que nous proposons. Dans le premier, dans Matthieu chapitre 7, les versets 22 et 23. « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Nous avons chassé les démons en ton nom, que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Un autre texte dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 et 10. « L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Un autre texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, nous lirons les versets 13 et 14. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. C'est par la puissance de Dieu que Moïse et Aaron ont changé devant Pharaon un bâton en serpent, et l'eau du Nil en sang, et qu'ils ont fait monter du fleuve des grenouilles qui couvrirent l'Égypte. Les magiciens égyptiens ont fait la même chose, mais par le pouvoir de Satan. Toutefois, après la troisième plaie, ils n'ont pas réussi à contrefaire les miracles de Dieu. » Cela nous enseigne deux choses. Premièrement, Satan est capable de faire des miracles qui semblent authentiques. Deuxièmement, il ne peut opérer qu'au sein des limites fixées par Dieu. Les contrefaçons des dons ne sont pas de simples travestissements des vrais. Ce sont des manifestations semblables aux véritables dons, mais avec une origine différente. Ils viennent de Satan. L'étude des textes cités ci-dessus devrait nous révéler plusieurs autres points importants sur la contrefaçon des dons spirituels. Premièrement, comme nous le voyons, ces fausses manifestations peuvent être le fait de personnes qui prêchent le nom de Jésus. Jésus l'a annoncé, beaucoup de gens vont prétendre accomplir en mon nom des miracles, mais ces derniers ne seront pas de Jésus. Deuxièmement, il y aura des miracles, des signes miraculeux et des prodiges suffisamment puissants pour tromper bien des personnes. Autrement dit, soyons très attentifs à ne pas nous laisser séduire par la simple présence du surnaturel. Même si quelque chose de surnaturel est réalisé au nom de Jésus, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un authentique don de l'Esprit. À la fin des temps, Satan cherchera à tromper un maximum de gens. C'est pourquoi, quelles que soient les manifestations miraculeuses et aussi impressionnantes soient-elles, il faut vérifier qu'elles sont en harmonie avec ce que dit la Bible. Si ce n'est pas le cas, nous savons à quoi nous en tenir. La Bible doit être notre ultime référence. Nous arrivons à la journée du mercredi, 14 janvier 2009, et cette journée étudiera le don de prophétie. Le médecin français Michel de Notre-Dame, 1503-1566, plus connu sous le nom de Nostradamus, a, paraît-il, prédit le grand incendie de Londres de 1666 par ces mots « Le sang des justes sera réclamé à Londres, ville qui sera brûlée par le feu en l'an 66 ». En 1894, puis de nouveau en 1911, le voyant irlandais Shairo a averti le journaliste Steed qu'il périrait noyé en avril 1912. Steed est effectivement mort au cours du naufrage du Titanic en avril 1912. En 1956, John Dixon a publié une vision dans laquelle un démocrate était élu président des États-Unis en 1960, puis assassiné au cours de son mandat. John Kennedy, candidat démocrate, élu en 1960, a été assassiné en 1963 durant son mandat. Que penser de ces prédictions annoncées par des personnes n'ayant rien à voir avec les prophéties bibliques ? Eh bien, nous allons voir quelques textes maintenant, et tout d'abord un premier que nous trouvons dans le prophète Ésaïe, chapitre 8, le verset 19. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Ensuite, nous avons un autre texte que nous trouvons dans le livre des Actes, chapitre 16, nous lirons le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Et enfin, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 13 à 14. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire, et vous la nôtre, au jour de notre Seigneur Jésus. Depuis que Satan s'est servi du serpent dans le jardin d'Éden pour séduire Ève, il a eu recours à une grande variété d'intermédiaires, des intermédiaires humains pour tromper hommes et femmes, au besoin par des prédictions qui se sont réalisées. Cela signifie que l'accomplissement d'une prédiction ne garantit en rien qu'il s'agisse d'une authentique prophétie venant de Dieu. La prophétie, ou plutôt le ministère prophétique, figure dans la liste des dons de l'Esprit cités dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Elle apparaît au premier rang de celle de Romains 12, verset 6, et au deuxième rang après le ministère apostolique dans 1 Corinthiens 12, 28 à 30, et aussi dans Éphésiens 4, verset 11. Pourquoi le don de prophétie est-il si important au point d'être le seul qui figure sur les quatre listes de dons au ministère spirituel. Le don de prophétie est un moyen de communication entre le Créateur et ses créatures. Dans les Écritures, c'est par lui que Dieu a dévoilé l'avenir, conseillé et réprimandé des rois, annoncé des jugements imminents, appelé à un réveil, encouragé et réconforté le peuple d'Israël. Le don prophétique n'avait pas pour but de prédire l'avenir, même si c'était l'une des marques du vrai prophète. Les prophètes étaient des hommes et des femmes dont la tâche essentielle était de faire connaître la parole de Dieu à leurs contemporains. Ce qui termine la journée du mercredi, et nous arrivons au jeudi 15 janvier 2009. Et là, nous allons voir les dons spirituels dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14. L'église de Corinthe devait faire face à de nombreux problèmes, divisions, immoralités, procès entre croyants, difficultés conjugales et mauvais usage de la Sainte Cène. Mais il y avait aussi la question des dons spirituels, notamment du don des langues. Nous allons voir de quel don des langues il est question dans le livre des Actes. Si l'on s'en tient uniquement à ce que dit le texte, et quelle sorte de langue parlait-on? Alors, un premier texte, Actes chapitre 2, et les trois premiers versets. Actes 2, 1 à 3, et ensuite nous continuerons avec Actes 2, 4 à 6. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. En quelle langue parlait-on dans l'église de Corinthe? C'est une question à laquelle nous allons répondre. Et nous trouvons une réponse dans 1 Corinthiens chapitre 14, les six premiers versets. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si l'on applique le principe consistant à interpréter les Écritures par les Écritures, autrement dit, si l'on se sert des passages clairs pour expliquer les passages plus obscurs, on arrive à la conclusion que les langues dont il est parlé dans 1 Corinthiens chapitre 14 sont de même nature que celles mentionnées dans le livre des Actes, notamment parce que le mot grec « glossa » est utilisé dans les deux livres. Il ressort donc de ces deux passages que le don des langues est l'aptitude surnaturelle à s'exprimer dans des langues étrangères et non dans ce verbiage incohérent qu'on appelle aujourd'hui le parler en langue. Dieu fait généralement appel à notre intelligence. Comment lui, qui nous a mis en garde contre les litanies chères aux païens, pourrait-il nous inspirer des dons incompréhensibles, des sons incompréhensibles? Par ailleurs, dans 1 Corinthiens 14, verset 22, il est précisé que les langues sont un signe pour les incroyants, comme à la Pentecôte. Comment des sons que personne ne comprend seraient-ils un signe pour les incroyants? Les langues dont il est question dans Actes 2 sont en réalité des langues étrangères authentiques. En outre, si les dons spirituels sont accordés pour le bien commun, cela exclut l'usage d'un don qui ne profiterait qu'à celui qui le pratique, comme le prétendu don des langues utilisé de nos jours. Malgré tous les phénomènes de parler en langue auxquels on assiste aujourd'hui, la Bible n'enseigne nulle part que le don des langues est autre chose que le fait de s'exprimer en langues étrangères. Le parler en langue actuelle, que l'on appelle aussi glossolalie, n'a rien à voir avec le don des langues cité dans la Bible. Ainsi prend fin cette journée du jeudi. Nous abordons le vendredi 16 janvier 2009 et ce jour-là, nous avons l'habitude de vous proposer quelques citations, principalement des ouvrages d'Ellen White, et en voici trois que nous allons vous donner maintenant. La parabole des talents ne représente pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit. Elle concerne toutes les facultés et tous les dons, qu'ils soient innés ou acquis, naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service du Christ. En devenant ses disciples, nous nous remettons entre ses mains avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Il nous rend ses dons purifiés et ennoblis pour qu'ils puissent être employés à sa gloire en contribuant au bien de nos semblables. C'était un extrait du livre « Les paraboles de Jésus ». En voici un autre tiré du livre « Message choisi ». Celui qui fait des miracles, le critère de sa foi, s'apercevra que Satan, par des tromperies séduisantes, opérera des prodiges qui auront toute l'apparence de vrais miracles. Et une troisième citation, tirée de témoignages pour l'Église. « Certains d'entre eux ont ce qu'ils appellent des dons et disent qu'ils les ont reçus du Seigneur. Ils prononcent des mots incompréhensibles qu'ils appellent une langue étrangère, mais qui est étrangère non seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. De tels dons sont d'origine humaine et d'inspiration satanique. Le fanatisme, l'excitation malsaine, le faux parler en langue et d'autres exercices bruyants ont été considérés comme des dons envoyés par Dieu à l'Église. Eh bien, il y a là une grave erreur. Ainsi s'achève cette semaine d'études et nous aborderons la suite de ce sujet sur les dons prophétiques la semaine prochaine. Et nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.